Chers téléspectateurs, chers amis, nous vous saluons cordialement à l'occasion de la 12e partie de la série d'émissions intitulée « L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel » au cours de laquelle nous faisons la lecture du livre portant le même titre. Il s'agit d'une œuvre cosmique de formation et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, basée sur des entretiens avec Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque. Chers amis, dans tout ce qu'il nous a été donné d'entendre et d'apprendre au cours de cette série d'émissions, qu'il s'agisse de la création pure à cette dimension, de Dieu, l'un universel, l'intelligence supérieure, l'esprit libre, qui est l'amour, ou bien qu'il s'agisse du principe uni et soi, ou encore de la communication universelle et bien d'autres choses encore, il est toujours question d'apprendre à avoir un comportement toujours plus conscient envers la nature et les créatures de Dieu, les animaux, nos petits frères et sœurs de la création. Nous poursuivons donc la lecture de notre livre. Le chapitre d'aujourd'hui porte le titre suivant. Dans une promenade en forêt ou dans la campagne, l'être humain cherche le repos et la détente et pénètre ainsi dans les lieux d'habitation de ses frères et sœurs de la création.
Il est rare qu'en allant dans la forêt ou dans la campagne, le promeneur réfléchisse au fait qu'il pénètre dans les lieux d'habitation des animaux et des plantes en y amenant toutes ses pensées, ses désirs humains, mais aussi toute son indifférence envers eux. Les plantes, les fleurs, les herbes, les buissons et les arbres sont des êtres vivants qui, comme l'être humain, reçoivent le souffle de vie de l'un universel. Savoir que l'homme, en fonction de ses différents buts et motivations, est tel un intrus qui pénètre de plein pied dans le lieu d'habitation de ses frères et sœurs les animaux et dans les lieux de séjour de nombreuses espèces végétales, est pour beaucoup une toute nouvelle façon de voir les choses. Cette prise de conscience interpellera peut-être certains promeneurs qui ont l'habitude d'aller en forêt ou dans la campagne, car la plupart d'entre eux ne savent pas que nous devrions nous comporter dans ces lieux comme nous aimerions que nos invités se conduisent lorsqu'ils viennent nous voir. Pour nous, il va de soi qu'un invité se doit de respecter la propriété de son hôte. Comment nous comportons-nous dans les lieux d'habitation et de séjour des animaux et des végétaux? Comportons-nous en forêt ou dans la campagne?
Souvent, nous recherchons le calme de la forêt afin de calmer et de reposer notre esprit en proie à l'agitation. Mais notre promenade dans la nature peut-elle nous reposer si, malgré nos bonnes résolutions, nous emportons avec nous une multitude de pensées? Entrons dans de grandes discussions avec nos compagnons de marche, rions bruyamment, parlons beaucoup et fort tout en gesticulant, pour fuir ainsi le stress du quotidien. Il ne peut s'agir là de repos, tout au plus d'une diversion, d'un dérivatif. Il va de soi que la forêt nous offre le calme. Les champs respirent la paix. Par son comportement incontrôlé, le promeneur qui fait une intrusion dans l'habitat d'êtres vivants perturbe cette paix et plonge les habitants de la forêt et des champs dans la peur et l'anxiété. Certains s'étonnent que les animaux prennent alors la fuite. Ce n'est pas le vent ou la pluie qui les a effrayés et fait sortir de leur abri, mais bien le comportement incontrôlé de l'homme. Les plantes, ces êtres dont le lieu de séjour est fixe, ne peuvent pas fuir devant l'homme. Mais elles tremblent à chacun de ses passages en raison de sa masse de pensées humaines, de ses discussions à haute voix, ainsi que de son comportement.
Si ces quelques mots ne vous ont pas encore convaincu que les animaux et les plantes ont eux aussi un certain droit au calme, faites le rapprochement avec votre propre logement. Que diriez-vous si un invité pénétrait chez vous et vous assaillait littéralement par un comportement débordant, en faisant sortir tout ce qu'il a accumulé en lui en raison de ses programmes par trop humains, riant fort et parlant bruyamment, sans pouvoir s'arrêter? Certains diront qu'on ne peut pas comparer le logement de l'homme avec le lieu d'habitation des animaux et des plantes, car enfin, il ne s'agit là que d'animaux ou de plantes, entre guillemets. Ne vous y trompez pas. Les animaux et les plantes sont beaucoup plus sensibles que l'être humain qui se prend pour la mesure de toute chose.
Rappelons-nous les paroles de Jésus de Nazareth qui nous a invités à appliquer ce conseil que l'on exprime souvent aujourd'hui en ces termes. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce principe enseigné aux hommes s'applique, bien entendu, aussi à leur attitude envers les animaux et les espèces végétales, car la loi éternelle est l'unité universelle. Et l'unité universelle, c'est pour ainsi dire le vivre ensemble des hommes, des animaux, de la nature et des minéraux.
Une autre image pourrait nous inciter à réfléchir. Des motards se rassemblent juste devant votre maison, arrêtent le moteur, le remettent en marche quelque temps après et redémarrent en trombe, et cela plusieurs fois par jour. Si, pourtant, ces comparaisons et tout particulièrement les paroles de Jésus ne suffisaient pas, imaginez alors une grande ville. Tout d'abord, sans ses moyens de transport, uniquement peuplée d'une foule de gens. Imaginez-vous au milieu de ce brouhaha des paroles et des rires des passants qui résonnent dans votre tête. Ajoutez maintenant à cette situation le bruit assourdissant de nombreux véhicules. Et vous vous trouvez alors au cœur d'un vacarme ahurissant, ponctué d'éclats de rire, de cris et d'un flot interminable de paroles. Beaucoup de gens fuient volontiers ce tumulte. C'est pourtant la ville créée par les hommes eux-mêmes. Si ce comportement bruyant se trouvait transposé en forêt et dans la campagne, dans les espaces de vie de nos frères et sœurs, des animaux, beaucoup soupireraient en disant « Moi, je ne vais plus me promener dans cette forêt ou ce coin de campagne. Ça n'a rien de reposant. »
Chers amis, vous penserez peut-être que la comparaison n'est pas appropriée, qu'elle est exagérée, car la forêt et la campagne n'ont rien à voir avec la grande ville que l'on fuit justement pour trouver dans la nature la paix et le repos. Pourtant, comment les promeneurs se conduisent-ils? Bien souvent, plus ou moins comme dans une grande ville. Celui qui marche sans réfléchir à travers bois et champs, qu'apporte-t-il dans les espaces de vie des animaux et des végétaux? Le monde végétal émet lui aussi des signaux en réaction au comportement de l'être humain.
Qu'est-ce que cela veut nous dire lorsque les animaux, pris d'une peur panique, fuient à notre approche et que les plantes tremblent devant le comportement agité, les sensations et sentiments qui animent le promeneur, qui traverse sans réfléchir champs et forêts, bois et prairies et qui, ce faisant, piétine un grand nombre de végétaux? Pour le promeneur, quitter le sentier tracé est tout à fait normal. Il ne se rend pas compte que ses pas empêcheront plus d'une fleur ou d'une plante d'arriver à maturité. C'est bien souvent aussi le sort des fleurs cueillies avant terme, voire même arrachées du sol avec leurs racines si leurs tiges ne se laissent pas facilement couper. Après avoir été séparé de la tige, la racine est alors jetée sans égard dans le champ ou la prairie.
Der herausgerissene Wurzelballen wird dann achtlos in die Wiese oder auf das Feld geworfen.
Die Tiere finden in ihrem Zuhause.
Les animaux ne sont jamais vraiment tranquilles et en sécurité chez eux dans les forêts et la campagne. Car lorsque le promeneur tapageur s'en retourne chez lui, c'est le chasseur qui prend la relève et se glisse dans la forêt à la tombée du jour. Il y guette alors le gibier dans l'attente que l'un d'entre eux soit à portée de tir pour l'abattre froidement. Les animaux sont comme dotés de détecteurs, d'antennes très sensibles. Ils remarquent très rapidement toute présence inconnue. Normalement, les animaux ne prennent pas la fuite avant de s'être fait une image olfactive de la situation qui leur permet de détecter d'où vient ce bruit inconnu. Dès que cette image s'est formée en eux, ils suivent plus ou moins rapidement le chemin qui leur est communiqué par l'image, ce dont profitent souvent les chasseurs pour les abattre insidieusement. Il arrive aussi que l'animal, sentant le danger, soit pris de panique et prenne la fuite sans pouvoir s'orienter par une image olfactive, ce qui le met également en danger. Car il peut tout à coup se retrouver à portée du fusil du chasseur qui lui tirera dessus selon les règles de l'art, entre guillemets. Que l'animal soit tué sur le coup ou pas, lui importe peu.
Für die Jäger ist es auf alle Fälle weidmannsgerecht.
Si vous ne voyez rien d'anormal à cela, imaginez alors que vous êtes sur le point de vous endormir quand, tout à coup, un énorme coup de fusil vous fait sursauter. Il provient de la forêt voisine, où un chasseur a tiré sur l'un de nos frères et sœurs animaux, issu de la grande famille du Dieu créateur, et l'a tué. L'animal n'est peut-être pas mort sur le coup, mais blessé, il errera pendant des heures ou des jours, en proie à d'horribles souffrances, jusqu'au moment de rendre misérablement son dernier soupir. L'animal, peut-être une mère chevreuil ou sanglier, laisse éventuellement derrière elle des petits, qui, à leur tour, mourront d'une mort cruelle, car, sans leur mère, ils sont condamnés à mourir de faim et de soif. Comment appelle-t-on cela ? Prendre soin de la faune et de la flore ? Pour un grand nombre de personnes, de tels actes relèvent de la normalité, car elles croient aux doctrines des églises selon lesquelles les animaux sont peu sensibles et n'ont pas d'âme immortelle.
Si à travers les différentes explications, vous êtes devenu plus sensible et que vous repensez à ces aspects avant de partir en promenade en forêt ou dans la campagne, vous comprendrez pourquoi certains animaux, flairant entre guillemets le trop-plein d'émotions et de sentiments accumulés par une personne agitée, réagissent en conséquence. Si, au cours de votre promenade, vous voyez un animal et qu'il vous est possible, pendant quelques instants, ne serait-ce qu'avec des jumelles, de le regarder dans les yeux et d'observer son comportement. Vous serez à même de saisir sa situation et de comprendre, un tant soit peu, pourquoi il prend la fuite devant tant de personnes. Il est terriblement triste que les animaux évitent les êtres humains parce qu'ils en ont peur, alors qu'au plus profond d'eux-mêmes, dans leur nature spirituelle, se trouve l'image complète de l'infini qui comprend l'unité vivante entre l'homme, les animaux, les plantes, les minéraux et la terre-mère.
Les animaux souhaitent vivre avec les hommes qui devraient prendre soin d'eux et les protéger, car ils sont leurs grands frères et sœurs de la création. Comment l'homme se conduit-il envers les animaux sans défense? Il les chasse à travers champs et bois pour les tuer sournoisement. Il les fait souffrir brutalement et les abat ou les fait abattre. C'est une mort cruelle, contre nature, un meurtre commis envers nos prochains des règnes de la nature, nos frères et sœurs, les animaux. Les animaux aimeraient pouvoir regarder les hommes avec admiration et respect, vivre avec eux, être leurs amis, sans être dressés ni utilisés à des fins domestiques ou pour le divertissement de l'homme. Ils ne veulent pas être des animaux dits de production. Ils ne veulent pas être considérés et pour ainsi dire utilisés uniquement comme des animaux utiles à l'homme, mais aimerait aider les hommes et les servir. Les animaux, tout comme les plantes, les arbres, les buissons et les fleurs, les pierres et tout le règne minéral, sont pourvus d'une conscience, car tout vit, et ce qui vit porte en soi le souffle de l'un universel.
Liebe Mitmenschen, chers
amis, nous poursuivons avec la lecture du chapitre suivant. Nous apprenons et nous exerçons à prendre conscience des êtres merveilleux qui vivent parmi nous. Nous nous exerçons à la contemplation de nos frères et sœurs de la création, les animaux. S'il vous est possible lors d'une promenade d'observer de loin un animal qui n'a pas encore flairé votre présence, et donc ne vous a pas remarqué, laissez agir son être dans votre monde de sentiments. Efforcez-vous de trouver le calme. Inspirez et expirez plusieurs fois profondément. Si possible, fermez les yeux quelques instants et, par votre respiration, accueillez l'animal dans votre rythme corporel. En d'autres termes, en inspirant, vous emportez et accueillez en vous l'image de l'animal. Vous laissez son image agir sur vous, sans aucune attente, en toute humilité face à la vie. Avec le temps, vous ferez l'expérience que l'animal rayonne vers vous, à partir de son stade de conscience divin, l'unité et le sens de la communauté, quelque chose qui n'est pas de ce monde.
Exercez-vous à contempler ainsi vos frères et sœurs de la création, que sont les animaux, mais aussi les plantes dont nous viendrons à parler. Par ces exercices où vous devenez silencieux et faites taire consciemment vos sentiments et pensées futiles afin d'être vraiment présent lorsque vous êtes dans leurs espaces de vie, vous remarquerez rapidement que vous devenez toujours plus sensitif et que votre compassion pour ce qui vous entoure se développe. Et si vous rendez toujours plus souvent visite à vos frères et sœurs, les animaux, dans la forêt et à la campagne, toutefois avec l'estime et le respect qui leur reviennent et que l'on doit à tout ce qui porte en soi la vie, vous comprendrez vite ce que veut dire vivre dans la véritable unité. Les animaux aiment la paix et la liberté. Leur vie spirituelle repose sur l'unité et l'esprit de communauté. C'est pourquoi ils veulent être auprès de leurs grands frères et sœurs, les êtres humains. Lorsque certains d'entre eux apprennent à les comprendre avec humilité et respect devant l'un universel parlant, ils le ressentent tout à fait.
Liebe Mitmenschen,
chers amis, dans l'œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, nous apprenons ce qui suit. La perception sensorielle est importante pour le bon développement de la conscience. Une promenade paisible et harmonieuse, en forêt ou à la campagne, est une aide précieuse pour le bon développement de la conscience. Nous avançons avec précaution, car nous apprenons à entendre et à prêter l'oreille, bien que ces deux actions sont deux manières de percevoir très différentes l'une de l'autre. On pourrait dire qu'entendre est une perception extérieure, tandis que prêter l'oreille, c'est ressentir à l'intérieur de ce que l'on entend, c'est-à-dire entrer dans une relation intérieure avec ce qui est perçu. C'est une perception intérieure. Avec le temps, l'exercice et l'orientation intérieure nous conduisent à une relation intérieure difficile à décrire avec des mots humains. C'est donc en apprenant et en s'exerçant que l'on parvient à la maîtrise de ce que nous voulons atteindre.
En nous promenant consciemment, nous percevons que la nature souhaite nous dispenser le calme. Nous découvrons également que tout a une sonorité, une couleur et une forme. Nous entendons les sons que produit le vent, qui peut être froid si nous sommes en automne ou en hiver. Au printemps, il se transforme en brise légère et tiède, dont les sons, peut-être plus doux, annoncent le vent chaud de l'été. Parfois, le vent prend les traits de la tempête, qui ressemble à un roulement de tambour. Nous entendons le murmure d'un ruisseau, le chant des oiseaux et, ici ou là, des cris d'animaux en provenance de la forêt. Il est rare que nous percevions ce qui est au plus profond de ce que nous entendons, des aspects de conscience de la vie, car nous n'avons pas encore appris à faire la différence entre entendre et prêter l'oreille. Pourtant, la différence entre ces deux façons de percevoir peut être énorme, mais c'est ce que nous apprenons maintenant.
Chers amis, ce que nous entendons, c'est-à-dire ce que nous percevons avec nos oreilles, ce sont les sons extérieurs, appartenant aux fréquences tridimensionnelles. Par contre, prêter l'oreille signifie bien sûr entendre avec nos oreilles, mais également emporter à l'intérieur de nous-mêmes, par le biais de notre respiration, ce que nous avons entendu et le déposer sur notre propre corps sonore. Prêter l'oreille n'est pas la même chose que tendre l'oreille par curiosité. Si vous cherchez une orientation, concentrez-vous sur votre système nerveux central. Essayons de passer de l'écoute purement physique à une écoute plus intérieure, à la perception. Il en est de même pour voir et regarder en profondeur. Passer d'une manière de faire à l'autre signifie tout d'abord parvenir au calme, éventuellement en respirant profondément, jusqu'à ce que notre monde de pensée se soit apaisé et que nous puissions accueillir au plus profond de nous-mêmes ce que nous avons vu. Un système nerveux apaisé est à même de le faire.
Entendre et voir est pour nous, les êtres humains, une perception physique. Par contre, si nous réunissons les deux perceptions profondes que sont prêter l'oreille et regarder en profondeur, c'est-à-dire si nous emportons ce que nous avons vu et entendu à l'intérieur de notre corps par le biais de notre respiration, nous ressentirons progressivement qu'un sentiment stimulant se manifeste en nous, un sentiment qui transforme notre rythme corporel et nous transmet le calme. Cela fait naître en nous des moments de bonheur qui ne sont pas de ce monde. Cela pourrait être des aspects de perception intérieure. Tout est fonction de notre assiduité à nous exercer et de notre autodiscipline, également au quotidien, dans le contrôle de nos cinq sens. Essayons d'unir ce que notre ouïe perçoit, ce que nous entendons plus profondément en prêtant l'oreille, ce que nous voyons et ce que nous regardons en profondeur. Avec le temps, nous deviendrons alors plus perceptifs à la vie, plus calmes, et nos antennes, entre guillemets, notre perception, s'affinent. C'est sur cette base que nous comprenons progressivement que nous, les êtres humains, sommes au plus profond de notre âme, des êtres cosmiques issus de la grande famille de Dieu dans laquelle agit et se révèle l'intelligence universelle.
Si nous apprenons chaque jour un peu plus à faire preuve de respect envers le monde végétal et animal, nous percevons alors progressivement que l'un universel, Dieu, le Créateur qui parle, qui dispense et maintient la vie, est en tout et en tous, dans ce qu'il y a de plus petit comme dans l'infini. Laissons le cœur et la raison être touchés par ce qui suit. L'infini est contenu dans ce qu'il y a de plus petit, et ce qu'il y a de plus petit est contenu dans l'infini. Dieu, le Créateur de la vie, est l'amour universel. Son amour est l'humilité universelle dispensée à toute vie de manière égale.
Chers téléspectateurs, chers amis, si ce que vous venez d'entendre trouve un écho en vous, vous vous réjouirez certainement de poursuivre cet apprentissage qui nous permet de nous rapprocher de notre but. Rappelons-nous ce que nous avons entendu au tout début de cette série d'émissions. Le but du thème « L'unité universelle parle », la parole de l'Esprit créateur universel, est, si nous le souhaitons, bien sûr, d'orienter notre vie sur ce qu'il y a de plus élevé, afin d'apprendre et de faire l'expérience, pas à pas, de ce que signifie l'unité universelle. Chers amis, pour nous aider à parvenir à ce but, l'École de la Sagesse Divine nous propose de nombreuses indications et exercices pratiques permettant à chacun qui le souhaite de faire ses propres expériences. Ainsi, si vous le voulez, retrouvez-nous pour la prochaine émission de cette série, au cours de laquelle nous ferons ensemble une promenade virtuelle et apprendrons, par exemple, à accueillir en nous le corps sonore d'un oiseau ou à accueillir dans notre propre corps sonore la forme de vie qu'est une fleur. Nous apprendrons que tout porte en soi les mélodies de l'infini, car tout appartient à la symphonie universelle. Nous vous disons au revoir et vous adressons une très chaleureuse salutation en Dieu.